13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Et on enchaîne avec « Et personne ne sait » qui va paraître chez Gallimard, contrairement à ce que je disais en début d'émission, il n'est pas encore sorti. C'est le 11e roman de Philip Forrest. Il nous emmène à New York, au mi-temps du 20e siècle, un New York sous la neige, où un jeune peintre, sans le sou et sans reconnaissance, rencontre une petite fille dont il va faire le portrait. L'enfant grandira, deviendra sa muse. Vous avez peut-être reconnu, si vous êtes un cinéphile accompli, le scénario du « Portrait de Jenny », un film américain sorti en 1949, lui-même tiré d'un roman. C'est donc un drôle de jeu de piste auquel se livre l'auteur ici, et aussi évidemment une réflexion sur la peinture du XXe siècle. On commence avec un avis rapide de l'un et de l'autre, Pierre Benetti.
C'est un livre qui dégage, et c'est le cas depuis quelques livres, même depuis le début, depuis L'Enfant éternel, le premier livre d'écrivain, disons, de Forrest, qui est aussi chercheur. C'est un livre qui dégage un véritable charme, enfin c'est le mot qui m'est venu, qui est le charme des contes. C'est un conte de Noël, c'est un conte d'hiver, et pour autant qui parvient à cette chose assez forte, qui est de ne jamais être dans la pure illusion pour le lecteur, puisqu'il réfléchit en permanence à la manière de construire un récit, au fait que finalement tous les récits parlent des récits précédent et nous parle de choses communes et absolument pas singulières à un narrateur ou un auteur. C'est un livre très beau qui joue avec le... qui se permet de jouer, encore une fois, on en parlait tout à l'heure avec Cadio, qui se permet de jouer avec le deuil, avec ce que c'est d'essayer de parler de deuil, jouer au sens non pas d'un jeu frivole ou d'humour, mais le jeu avec les narrations et vraiment la magie opère, si on peut se permettre cette sorte de cliché.
Un roman de Gallimard, la magie opère.
Oui, c'est un roman à tiroir, enfin je l'ai lu comme roman à tiroir, parce que c'est un roman sur un film adapté d'un autre roman qui parle d'un tableau, voilà, je vais y arriver, et dont l'architecture est très très complexe, très très élaborée, et qui, oui, ouvre une espèce de grande réflexion générale sur l'art, oui.
Et on va écouter un extrait donc de « Et personne ne sait » de Philip Forrest.
L'hiver vient. Il vient, ou plutôt, il est déjà venu, sans qu'on le sache. Ni même que quiconque ait pressenti qu'il ne tarderait plus. Mais il est là maintenant, et tout indique qu'il doit durer, qu'il durera longtemps. L'hiver de l'esprit, comme le livre le dit. L'hiver qui ensommeille la vie. Extraordinairement précoce, parfois. Souvent, c'est le cas. Interminable, aussi. De plus en plus, il en va ainsi. Aucun printemps nouveau, nécessairement, ne le suit. Et le printemps d'avant, il semble si ancien que chacun, désormais, l'oublie. Ainsi commence le roman. Je cite... littéralement ou presque, ses premières lignes. Il raconte l'histoire d'un peintre, elle se passe ailleurs et il y a longtemps. Le peintre est encore jeune, mais il a le sentiment d'être entré déjà dans l'hiver de sa vie.
C'était donc un extrait de « Et personne ne sait » de Philip Forrest qui va paraître chez Gallimard. Et merci à Tom Undenstock pour la lecture. Pierre Benetti, comment il s'inscrit dans l'œuvre générale de Philip Forrest, ce livre?
Depuis quelques livres, enfin je le date depuis ma lecture de Cru, qui était c'est comme une crue, la crue de la Seine, mais aussi comme quelque chose de... une chose crue. Depuis Cru, qui était paru en 2016, Philip Forrest écrit des sortes de fables ou de contes qui déplace, disons, le motif qui est vraiment en fait le motif unique de son œuvre, qui est la perte de le deuil de sa fille raconté dans L'Enfant éternel. Mais celui-là en particulier, j'ai l'impression qu'il se rattache à un précédent qui était Je reste roi de mes chagrins, qui lui aussi jouait comme ça avec les emboîtements, racontait la rencontre d'un peintre et de son modèle Winston Churchill, et l'entrecroisement dans cette rencontre des deuils. Et déjà il y avait cet emboîtement entre si je me souviens bien, une pièce de théâtre, un tableau, etc. Et donc tout se s'imbriquait comme ça, et donc Forrest complique là cette fois le dispositif, puisque il écrit à la fois explicitement et de manière très vague, à partir d'un film, donc le portrait de Jenny, lui-même tiré d'un roman sur un tableau, et va tisser son livre autour d'une... j'ai l'impression d'une conviction qui s'affirme de plus en plus dans son œuvre, c'est que on peut raconter toutes les histoires d'une certaine manière, on peut se mettre dans n'importe quelle peau de personnage, et c'est assez drôle pour quelqu'un par exemple qui a fait un travail très important sur l'histoire de Tel Quel, qui connaît très très bien les mouvements d'avant-garde, qui a été le biographe d'Aragon. Il y a une forme de foi dans la capacité de la fiction à nous faire sentir toutes les expériences du monde, qui est très touchante en fait, hein, pour dans l'itinéraire, hein, que tisse cette œuvre. D'une certaine manière, tout le monde vit la même histoire. Et l'histoire, par exemple, de Philippe Forest qui perd sa fille, n'est absolument pas son histoire propre. En tout cas, il ne la raconte jamais comme ça. Et il refuse même la place d'une victime ou de témoin. Et en ça, il se différencie complètement de notre époque. C'est très, très singulier de croire à la création de fiction capable d'embrasser l'intégralité des expériences.
Romain de Bellevue-Lièvre.
Oui, moi je connais pas du tout le l'œuvre de Philippe Forest, c'est le premier roman que je lis. Enfin, j'avais lu un essai de lui sur Joyce notamment, sur Ulysse. Oui, alors c'est très étonnant ce livre, parce que donc il nous raconte l'histoire de ce film qui raconte, pour aller vite, la rencontre entre un peintre et une petite fille un soir de Noël, et petite fille qui va devenir obsédante pour le peintre en tant que modèle. C'est-à-dire va relancer la question de l'inspiration, il va vouloir ne cesser de la peindre, et ils vont se recroiser en permanence. Donc on a ce fil-là qui est tiré, et au milieu il va intercaler une visite du Metropolitan Museum de New York avec des descriptions de tableaux. Il est très très fort dans la description de tableaux, Philippe Forest, je crois que c'est ce que j'ai préféré dans le livre, c'est-à-dire il décrit les tableaux en mouvement, et surtout il les décrit comme des énigmes. Et ça, c'est assez fort. Je pense à un tableau où il y a cinq ou six petites filles notamment, et il commence à faire la réflexion de se dire « Ah, mais c'est les cinq mêmes, c'est la même petite fille, mais à des âges différents. » Et donc, il y a toute une réflexion comme ça sur le temps et sur la peinture, et comment le temps et la peinture peuvent s'imbriquer. Et donc, on a cette construction comme ça, et on avance entre deux étapes qui seraient assez claires, donc la visite du maître et le récit de cette chose-là, sauf qu'au fur et à mesure de l'écriture, il va brouiller toutes les pistes. C'est-à-dire que un moment, il dit j'ai plus la formule exacte, mais il dit « toute proposition se renverse ». Et c'est l'art glisse dans la vie et la vie glisse dans l'art, le jour glisse dans la nuit et la nuit glisse dans le jour. Et ça, c'est assez renversant, parce qu'à un moment, en fait, on ne sait plus déjà si le roman existe, si le roman raconte vraiment ça, le roman d'origine, et le film aussi, si les peintures racontent vraiment ce qu'elles représentent. Enfin, il y a un espèce d'effet de décollement progressif du réel qui est assez vertigineux, d'autant plus que le dispositif au début paraît assez sage. C'est-à-dire, on a des étages un peu, et on a un narrateur qui va vous dire « Voilà, je vous raconte juste le roman. » Et il va même aussi avoir des réflexions sur lui-même. Il y a toute une dimension méta, comme on dit aujourd'hui, sur l'écriture. Uh-huh. C'est-à-dire, cet homme qui est en train de peindre, qui cherche l'inspiration. Est-ce que l'inspiration, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, ou est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a toujours en nous et qui finalement se permet de s'exprimer. Il croit pas aussi, par exemple, je trouvais ça assez beau, au génie personnel. Il y a quelque chose aussi du grand courant de l'histoire de l'art qui a abordé aussi. Voilà. Après moi, j'ai eu un petit peu de mal avec justement ces montées systématiques en généralité. C'est-à-dire tous les moments où le narrateur se met à monter en généralité et à comparer l'itinéraire de ce peintre-là et son écriture. J'ai trouvé ça un peu répétitif dans la structure.
Ouais. Pierre Benedetti, vous parliez de roman qui a du charme, de conte. C'est-à-dire qu'on peut en rester aussi à ce niveau-là de lecture, en fait.
Alors c'est assez difficile d'en rester là, parce que justement il y a comme un double fond du livre, il y a son commentaire permanent, il y a cette manière, c'est vrai, d'aller vite en conclusion sur, disons, un fonctionnement de l'art, le fonctionnement du récit, les principes, disons, vérité et fiction, des choses comme ça. Donc c'est très difficile de se faire uniquement, on n'est pas dans un livre où on s'étend tranquillement, on se laisse porter et puis on s'endort. Mais quand même, l'ambiance conte de Noël, elle est pas simplement... comment dire, c'est vraiment quelque chose qui dit quelque chose du livre, puisque à la toute fin on parlera d'un tout petit bout de blanc, et ce tout petit bout de blanc, c'est pour Forest ce que nous font les bonnes fictions, celles qui nous permettent d'accueillir les êtres et les choses disparues, de peut-être parler de choses qu'on n'arrive pas à monter en conscience, et disons qu'il y a une élégance, il y a une clarté qui, moi, m'a rappelé les contes les plus anciens, et en même temps qui est toujours travaillé, non pas comme chez Cadio, dont on parlait tout à l'heure, par, des effets de construction du texte un peu compliqué, mais c'est toujours travaillé par un commentaire permanent. Enfin, c'est très étonnant, et c'est toujours travaillé aussi par une sorte de circulation entre l'expérience du narrateur, l'expérience de ce peintre, l'expérience de du lecteur, où toutes les places sont toutes les places sont interchangeables. De plus en plus, on a l'impression que l'œuvre de Philippe Forest s'achemine vers une sorte de clarté d'un narrateur qui pourrait être n'importe qui pourrait être le peintre, qui pourrait être la petite fille. C'est ça aussi, ce charme là on est accueilli dans une forme qui... Je sais pas.
En disant que ça se mystérieux. Place pas. Voilà, qu'il y a quelque chose de pas très contemporain complètement.
Ah, pas du tout. C'est très. Oui. Ça refuse même. C'est un livre qui refuse le contemporain, oui, qui est même en guerre contre certaines tendances du contemporain. Il le dit très souvent. À plusieurs reprises, un narrateur dit c'est un genre d'art, ce film ou ce tableau, et même le livre qu'on est en train de lire, qui n'est plus en vogue aujourd'hui, et je préfère les œuvres du passé. Mais pour autant, c'est pas réactionnaire. C'est très étonnant comment ça ne sonne pas comme réactionnaire.
Comment il décrit New York comme étant une ville très très ancienne. Il y a beaucoup de renversements qu'il produit comme ça, qui sont très très beaux. Quand il parle de la peinture américaine, c'est aussi un grand livre sur la peinture américaine qui est assez mal connue en France. Il dit que les premiers peintres qui sont partis peindre le Grand Ouest ou les grands paysages américains, c'est comme s'ils renouaient avec les primitifs. Alors que c'était le Nouveau Monde, finalement, il rejoue avec les primitifs. Il met toujours en ordre des dialectiques comme ça, où le Nouveau Monde est finalement l'ancien et le nouveau. Enfin, les choses se rejoignent comme ça.
Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Benetti, Romain Bec de Lièvre. C'était Et personne ne sait. Il y aura aussi une rencontre à la Maison de la Poésie à Paris, et ce sera le 31 janvier à 19h. Toutes les références sont sur le site des Midi de Culture.